Mais en tout cas, ce qui m'a frappée encore une fois, c'est ce plaisir, cette envie, cette passion qui est née vraiment de façon totalement spontanée en regardant ces gens-là qui maillent le tissu économique français, en les regardant s'exposer, en les regardant prendre des risques, en les regardant protéger les leurs. J'ai vraiment été frappée par leur générosité et par l'affect en fait, par les normes humaines qui règnent dans ce... Et moi voilà, ça m'a frappée et tout de suite je me suis dit mais attends, il y a vraiment quelque chose à faire, il y a vraiment un rôle à avoir auprès de ces gens qui sont des gens admirables en fait tout simplement. Retrouve dans des sessions de brainstorm qui sont vraiment des sessions de pure sparring partnership, de nature parfaitement ajuridique dans un premier temps. On est dans le partage strat, on est dans le brainstorm, on est dans le coaching parfois un peu, mais pas du tout encore dans le droit. Et l'outil juridique ne viendra que servir le dimensionnement, le périmètre qui aura été le fruit justement de cet échange et de ce brainstorm.
Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur Bienvenue au Capital, le podcast qui a pour but de nous inspirer et de nous faire découvrir les mondes passionnants du rachat d'entreprise et du capital investissement, aussi appelé private equity. Je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui investissent et s'investissent dans des entreprises formidables et qui les accompagnent pendant plusieurs années dans leurs projets de développement. En quelques mots, mes invités sont des actionnaires actifs. Ainsi, chaque discussion vous permettra de tirer des exemples concrets et directement actionnables, que ce soit pour travailler en private equity ou pour comprendre les stratégies des entrepreneurs et des entreprises qui réussissent. Je suis Mathieu Colombarini, étudiant en finance d'entreprise passionné par le private equity, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Ariane Olive. Ariane, merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. On vient un petit peu discuter, donc comme je vous le disais, j'introduis un peu pour nos auditeurs. Le but d'aujourd'hui, ce sera de comprendre votre parcours. Vous êtes la fondatrice de Spark Avocat. Et donc, l'objectif d'aujourd'hui, j'avais fait, comme je vous l'ai dit, un épisode avec Loïc Jeanbrun sur lequel on était revenu, mais sur le pacte d'actionnaires, donc quelque chose de très précis. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on comprenne votre vision du métier d'avocat, d'avocat d'affaires, dans le cadre du private equity, donc votre relation, les relations que vous avez avec les fonds, avec les entrepreneurs que vous accompagnez, votre vision potentiellement de l'industrie, et comment vous vous inscrivez dans les deals ou entre les deals. Donc voilà, avant de parler de tout ça, je vous propose tout simplement de vous présenter.
Eh ben c'est parti, parfait. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Alors moi, le débarquement, si je puis dire, dans le secteur du M&A private equity, alors donc small SMID, hein, 0, 40 millions de valeur d'entreprise, puisque nous c'est vraiment notre terrain de jeu depuis toujours et qu'on s'attache à y rester pour les raisons qu'on évoquera certainement sans plus tard. Il s'est fait relativement par hasard, puisque à la base moi j'étais vouée à réconcilier mon amour du droit, qui était surtout l'amour d'avoir commencé mon droit à Londres, donc dans le milieu anglo-saxon et baignant dans la common law, avec mon goût pour la littérature. Donc j'étais partie sur de l'IP, j'étais partie sur du droit d'auteur en particulier. D'accord. Et puis finalement bifurcation inattendue oblige, je me suis retrouvée dans une équipe qui, elle, ne faisait que de l'opération, acquisition, cession, levée de fonds, en PME. Et ce qui m'a tout de suite passionnée, en fait, c'est l'entrepreneur, en fait. L'entrepreneur, la variété de ses personnalités, cette abnégation, vraiment, cette immense générosité qui contrastait tellement déjà à l'époque pour moi, jeune débarqué, avec tout ce qui se dit finalement, hein, du patron. On sait qu'en France, être patron, c'est quand même pas avoir la meilleure réputation du monde. Mmh. Et tout de suite, j'ai été frappée en fait par ce décalage, et je me suis énormément intéressée à ces gens, à ce qu'ils vivaient, au secteur dans lesquels ils se développaient. Et voilà, c'est comme ça que ce goût du M&A private equity est arrivé, les accompagner en fait dans leur charnière de cession, charnière d'acquisition, charnière de levée de fonds.
Si je comprends bien, de base, vous aimez la littérature, le droit. Au début, ça vous a pas... Déjà, vous avez commencé à Londres ou en France, du coup?
Alors, j'ai commencé ma pratique en France.
D'accord.
Mes études à Londres, mais ma pratique en France.
Ok. Et au début, vous avez pas eu un peu un choc de culture? Si vous aimez la littérature, arriver dans un milieu que... Surtout dans les années 2000, donc des avocats d'affaires, on peut avoir l'impression que c'est un petit peu deux mondes, mais aux opposés.
Ouais, c'est vrai.
Comment ça s'est passé au tout début?
Bah, deux mondes assez opposés, mais finalement qui se sont, alors je dirais pas qu'ils se sont réconciliés parce que ce serait créer des liens de façon un peu artificielle, mais en tout cas, ce qui m'a frappé encore une fois, c'est ce plaisir, cette envie, cette passion qui est née vraiment de façon totalement spontanée, en regardant ces gens là qui maillent le tissu économique français, en les regardant faire, en les regardant s'exposer, en les regardant prendre des risques, en les regardant protéger les leurs. J'ai vraiment été frappée par leur générosité et par l'affect, en fait, par les normes humains qui règne dans ce métier. Et je crois que je m'y attendais aucunement, parce que notre matière est quand même une matière très technique. Et de ce point de vue-là, en tout cas, elle peut apparaître à des gens qui la pratiquent pas assez désincarnés. Surtout lorsqu'on bosse avec des sociétés, hein, c'est pas ce qui apparaît comme étant la branche du droit la plus nativement humaine, en tout cas dans l'esprit des uns et des autres, et c'est tout à fait normal. Et moi, voilà, ça m'a frappé, et tout de suite, je me suis dit, mais attends, il y a vraiment quelque chose à faire, il y a vraiment un rôle à avoir auprès de ces gens, qui sont des gens admirables, en fait, tout simplement. Je crois que ce qui a émergé aussi instantanément, c'est mon immense admiration pour tous ces gens.
Parce que l'avantage, donc, d'avoir commencé votre carrière dans, vous m'avez dit, le small, small cap, c'est que donc vous étiez, j'imagine, beaucoup plus exposé que peut-être vos amis qui étaient en large cap et qui faisaient du coup étaient plus derrière un bureau. Et donc c'est pour ça que dès le début vous avez pu les rencontrer, ces entrepreneurs.
Exactement. En fait, j'ai commencé en small cap et j'y suis toujours restée, hein, comme je vous le disais. Et j'ai commencé dans un cabinet très small, avec quelqu'un qui avait qui est un de nos confrères brillants, qui lui était passé par l'INSEAD, donc c'était déjà très symptomatique, hein, de la patte qu'il donnait à sa pratique, qui était une patte très business, très ancrée aussi dans la stratégie. Et je crois que j'ai adoré, alors sans du tout prétendre l'imiter, hein, parce qu'on n'avait pas le même background, mais je crois que j'ai adoré justement cette façon qu'il a eue de me montrer quelque chose que je ne soupçonnais pas comme pouvant faire partie du métier d'avocat. Okay. Et puis ensuite, très rapidement, je l'ai mis à ma patte parce que je suis partie au bout de 4 ans. Okay. Donc finalement, je n'étais restée que très peu dans un cadre de collaboration. Et au bout de 4 ans, j'ai eu envie de monter mon cabinet. Enfin, ce qui moi-même m'a complètement surprise, hein, parce que je dois vous dire que j'étais pas du tout partie avec cette idée-là.
Et puis 4 ans, si... alors, je connais vraiment peu les carrières en tant qu'avocat, mais 4 ans pour déjà monter son activité, c'est tôt, non?
Ouais, c'est super, super court.
Ouais.
Surtout quand on est une femme, qu'en plus, au passage, on a 3 enfants... qui s'égrène, hein, dans le temps.
Et qu'on est en 2000 et quelques.
On est en 2003.
Ouais.
Voilà. Okay. Donc, il y a 19 ans, quasi exactement. Et donc, c'était, je dirais pas que j'y subis, parce que je pense que j'ai été actrice quand même d'une partie de mon parcours depuis presque 20 ans. Mais c'est vrai qu'il s'est imposé à moi presque comme quelque chose de très naturel, d'évident, voilà, comme une forme d'évidence à laquelle je m'attendais pas du tout.
Vous accompagnez des entrepreneurs et ils ont transmis un petit peu de leur passion et leur flamme et vous avez eu envie de faire la même chose.
Exactement, exactement.
Et qu'est-ce que vous avez appris du coup sur ces 4 premières années sur le rôle justement de l'avocat dans les transactions? Comment vous vous placiez à l'époque? Et est-ce que sur votre première expérience, donc en 2003, c'était pas encore Spark alors?
C'était pas encore Spark, non.
Entre la première expérience, qu'est-ce que vous apprenez et qu'est-ce que vous créez donc sur votre première création?
Alors, ce qui m'a vraiment là aussi totalement frappé, c'est que j'ai découvert que, alors je pense être quelqu'un d'assez empathique, voire très empathique, même si bon, je peux être un peu ferme ou trop ferme parfois, on me le dit aussi, mais il y a ça en moi, et j'ai découvert très très rapidement qu'en fait le rôle du conseil était un rôle extrêmement psychologue. Puisque finalement, ce que j'ai découvert aussi et qui ne s'est pas démenti en quasiment 20 ans de pratique, c'est que le facteur clé de succès ou d'échec de nos opérations en small SMID est prioritairement humain. On peut se raconter tout ce qu'on veut. La réalité, c'est que ça marche ou ça échoue pour des raisons, à mon avis, quasi exclusivement humaines. Alors bien sûr, on peut ne pas s'être mis d'accord sur un prix et s'être par ailleurs très bien entendu avec un cédant, entrepreneur, etc. Je vais évidemment pas trop caricaturer la scène. Mmh. Enfin, je pense être quand même dans le vrai en disant que ce facteur humain est très fort. Ça m'a marqué dès le début et ça a été très 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 fondateur dans la fondation justement de Spark, parce que clairement cet accompagnement, cette capacité à écouter. De façon très très attentive, un peu comme un coach peut le faire, parce que c'est quand même la capacité, une des capacités numéro un du coach, que de savoir se mettre dans ce qu'ils appellent eux-mêmes cette forme d'écoute, cette écoute attentive, qui est une écoute qui permet à la fois de faire émerger chez l'autre, et pour nous en tant que conseil, et c'est là qu'on se différencie notamment des coachs, mais cette capacité ensuite à reformuler en fait, des problématiques, des cahiers des charges avec lesquels les clients arrivent et pour lesquels on a un vrai rôle amont à jouer. Et pour reformuler une problématique, reformuler un cahier des charges, il faut évidemment parfaitement comprendre dans quel contexte elle s'inscrit.
Et ça passe par l'écoute.
Et voilà, ça passe par l'écoute.
Hyper clair. Et donc, avant Spark, première aventure, comment ça s'appelle ?
Alors donc d'abord donc première aventure en tant que collaboratrice, puis ensuite je me suis associée dans un cabinet qui s'appelait Labo Ici, qui est un cabinet dans lequel j'avais 8 associés en tout, fondé sur un classique de l'avocat, on est pluridisciplinaire, on est des matières complémentaires et ça doit faire naître un terreau immédiat.
C'est quoi un classique de l'avocat? C'est-à-dire plusieurs matières, droit des affaires, droit social.
Exactement. Beaucoup de cabinets se fondent sur ce principe, qui est évidemment un principe tout à fait louable. Alors, le défaut que j'y vois, c'est que, et c'est ce que je dis d'ailleurs très souvent à mes start-upers quand on parle de cahier des charges d'association, la complémentarité est à la fois un élément indispensable et à la fois quelque chose qui a tendance à occulter un élément central qui est que vous fassiez du droit de l'immobilier et moi du M&A fait qu'on est chacun techniquement dans nos cases, si je puis dire. Mais si on est associé, il y a une zone de chevauchement qu'on doit partager et qui s'appelle la vision. Et qui ensuite, évidemment, à l'appui de la vision, va s'appeler la stratégie. Et ça, je pense que c'est un élément que dans notre métier, et parce qu'on n'y est pas formé d'ailleurs, un avocat n'est formé ni à l'exercice de création ou d'alignement de vision, ni à la gestion, encore moins au management. On sait tous les déboires que ça peut occasionner. Et donc, en fait, je pense que beaucoup de d'associations oublient ce point-là. Et même si j'ai énormément apprécié mon temps dans ce cabinet, je crois que c'est un peu de ça dont ce cabinet a souffert, une évidence autour de la complémentarité qui n'a pas suffi à créer des synergies et surtout une vision commune et par conséquent une stratégie commune à ce cabinet.
Une vision, vous voulez parler aussi bien de culture que d'envie de développement, enfin, ça peut être des enjeux assez larges, mais c'est...
Exactement. Bah, il y a quand même un élément de vision qui est prioritaire, à mon avis, dans notre métier et qui a énormément évolué ces 19 dernières années, mais qui évoluait déjà certainement depuis longtemps. C'est ce que j'appellerais tout bêtement le service client. Quelle est votre notion du service client? Pour vous, être l'avocat de quelqu'un, ça signifie quoi? Pour beaucoup de nos confrères à l'époque, ça signifiait encore être maître machin et attendre que monsieur Intel me contacte.
Et être le technicien.
Et être le technicien, le sachant, avec toutes les problématiques d'ego, de posture que ça peut impliquer.
Maître.
Voilà. Donc vous êtes le maître, et puis on vous écoute, vous dites vrai. Vous ne souffrez quand même que très peu le challenge et la remise en cause. Okay. Et puis ça va très bien se passer comme ça, parce que ça fait des centenaires que ça s'est très bien passé comme ça.
Okay. Voilà. Et donc c'est ce qui vous a poussé au bout de combien de temps du coup ?
Alors au bout de 4 ans. Cinq ans, à fonder Spark. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand on se parlait, que j'aime bien dire que Spark est un projet assez adolescent, parce que j'ai un peu fait la liste de tout ce qui ne me convenait pas, et je me suis un peu construite en opposition, entre guillemets, à ce que j'avais pu voir.
Alors, ce que vous vouliez faire.
Également sur le ciment de tout ce que mes pères, et pour la plupart d'ailleurs plus âgés, m'avaient montré, apporté, et je leur rends grand hommage pour tout ça. Mais voilà, du coup, Spark s'est vraiment positionné comme un partenaire. Dès le début, l'idée, c'était de dire, voilà, même le nom évoquait cette notion de de pétillance et la pétillance pour moi c'était notre capacité en fait à être des agitateurs d'idées, à faire émerger encore une fois des problématiques et des cahiers des charges selon des angles qui n'avaient pas forcément été vus comme ça. Et pour ça il faut comprendre aussi la globalité du contexte stratégique du client et donc se positionner très très en amont. Et puis la pétillance, elle faisait aussi référence au fait que dans notre rôle, parfois, on est amené à défendre fermement la position de nos clients, y compris dans un rôle de conseil opération, et que du coup, parfois, ça crée quelques étincelles et que on est là, bien sûr, aussi pour les sortir par le haut, c'est-à-dire bien sûr par la négo et la construction.
Et justement, ça, c'est un point sur lequel je voudrais à tout prix qu'on revienne tout à l'heure, parce que justement. Vous avez utilisé le mot de ferme, je crois. Oui. Donc, il faut négocier fermement, mais en même temps, vous allez recroiser vos clients ou les personnes qui sont en face de vous dans le monde économique, et faut pas non plus briser la relation. Et donc, savoir, c'est un jeu d'équilibriste, j'imagine. Savoir comment faire, c'est vraiment une question qu'on abordera tout à l'heure. Mais d'abord, j'ai envie de savoir. Vous avez dit, vous avez créé Spark sur les choses que vous aviez pas envie de faire. On a déjà une petite idée par rapport à ce que vous avez évoqué, mais vous avez un petit peu la liste en tête ?
Je voulais pas qu'on soit des maîtres. Alors, c'est passé par des comment très pratico-pratiques. Donc, je vais vous égrener des choses qui sont peut-être d'inégale importance, mais qui sont toutes, je pense, assez symptomatiques de notre positionnement.
Okay.
Je voulais pas de maître. Je voulais le moins possible de vouvoiement. Je voulais pas de standard. Je voulais qu'on soit accessible par nos lignes directes, puis ensuite très rapidement sur nos portables.
Okay.
Je voulais que les clients comprennent que tout l'intérêt de travailler avec nous, c'était de nous associer très en amont à leur réflexion stratégique. Et que plus ils allaient nous faire débarquer tard dans une problématique, moins ils allaient tirer le meilleur de nous et le meilleur de la valeur ajoutée qu'on pense pouvoir leur apporter. Ça c'est, on va dire, sur l'externe. Alors évidemment, ça s'est accompagné aussi. Ça s'est accompagné d'une communication qui a toujours été assez décalée. Et à l'époque, entre guillemets, c'était moins coutumier qu'aujourd'hui.
Et rien que sur Welcome to the Jungle, vous avez très peu de cabinets d'avocats
dessus.
Enfin, c'est ouais.
Tout à fait. Et puis même sur notre site internet, on a poussé l'exercice assez loin. Et cet exercice, il est il est un excellent reflet, je pense aussi de ce que nous essayons ou voulons être, qui est le côté pas de maître, c'est on se prend pas au sérieux. On est capable de travailler de façon très rigoureuse, très stricte, très soutenu, parce qu'on a des rythmes, évidemment, comme tout le monde en M&A, qui sont hyper, hyper soutenus, mais avec toujours cette capacité à y mettre de l'humour, à savoir détendre des moments tendus, y compris en égo, on en reparlera tout à l'heure. Donc ça c'est pour l'externe, et ça s'est aussi, évidemment, joué énormément en interne, puisque on n'est rien sans une équipe. Spark M&A Private Equity ne pouvait pas se développer comme il s'est développé sans ses talents, jeunes pour certains devenus un peu moins jeunes. J'aime bien les chambrer en leur disant qu'on est beaucoup plus rapidement vieux qu'on ne le pense. Mais voilà. Et donc cette capacité aussi en interne à se respecter, à se traiter techniquement sur un pied d'égalité. La seule chose qui nous différencie, c'est notre niveau d'expérience. Et l'enjeu, c'est pas de le faire valoir par rapport à l'autre, c'est de le partager. Tout ça a créé un ADN, une culture qui a fait qu'aujourd'hui, on a une équipe qui est, et j'en suis ultra heureuse et très fière, mais aussi je sais que j'ai énormément de chance. On a une équipe de collaborateurs qui sont de parfaits ambassadeurs de notre ADN et de notre culture, et ça a été aussi le produit du projet Spark dès l'origine.
Ce que je peux ajouter, c'est que justement, j'ai attendu 5 minutes en arrivant, et que j'ai croisé 3 ou 4 de vos collaborateurs, et tout le monde grand sourire, bonjour, j'ai été super bien accueilli, donc je pense que ça se sent.
Top. Il y a une vraie culture du bien-être chez nous, et pourvu que ça dure, parce que.
C'est important. C'est important, et c'est aussi générationnel. On en parle beaucoup dans l'épisode de Bienvenue au Capital.
Bien sûr.
Avec de plus en plus un besoin d'équilibre. Ça
ne
veut pas dire ne pas vouloir travailler, loin de là, mais ça veut dire pour être performant sur le long terme, avoir besoin d'un certain équilibre. Et c'est aussi générationnel. Donc c'est comme ça, je pense, que vous gardez aussi vos talents.
Ah ben, vous prêchez une surconvaincue, et puis c'est comme ça qu'on espère en attirer, parce qu'on a des ambitions de croissance toujours très soutenues, et donc on est en recrutement permanent. Donc voilà, ça fait aussi partie, c'est aussi presque une discipline, si jamais on devait dériver un peu, c'est une discipline à laquelle on s'astreint, parce qu'on sait que c'est une condition du bon recrutement de nos jeunes futurs talents, enfin ou plutôt de nos futurs jeunes talents, parce qu'ils sont tous talents, mais juste futurs jeunes chez nous. Mmh. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on lâche rien, parce que c'est ouais, totalement c'est central à mon avis.
Hyper clair. Je pense que ça nous permet de comprendre ce point, votre carrière, Spark, justement, la mentalité avec laquelle vous faites les choses, et ça va nous donner d'autant plus de matière pour comprendre justement, comme le podcast est Bienvenue au Capital, c'est dans l'univers du private equity, ma question ce sera, dans quel contexte, est-ce que c'est très large, hein, mais dans quel contexte, dans quel type d'opération est-ce que vous croisez les fonds de PE?
Ok. Eh ben, écoutez, beaucoup de contextes. Non. On les croise depuis toujours sur les opérations suivantes. En MBI et en LBO, lorsque nos clients sont accompagnés d'un fonds pour faire une acquisition ou une croissance externe.
Ok.
Donc, ça a toujours été un mode de croisement fort des fonds. Et quand le fonds arrive chez notre client, ou que notre repreneur individuel en MBI s'est allié avec un fonds pour reprendre une société, comme dans 99,999% des cas, on suit notre client, eh bien, on vit ensuite littéralement avec les fonds dans le cadre des boards et puis dans le cadre en fait de tout ce qui fait la mise en œuvre de la gouvernance, du reporting pour lequel évidemment les clients nous sollicitent de façon assez fréquente.
Ok, donc ça c'est dans un contexte où vous accompagnez l'entrepreneur.
Exactement.
Et vous l'aidez à avoir à gérer les discussions avec un fonds qui va venir investir pour pouvoir faire de la croissance externe typiquement.
Exactement. Okay. Ça c'est typique.
Ok.
Il y a l'autre cas, bien évidemment, qui est le cas de la levée de fonds. Soit en amorçage, soit en capital développement, soit des startups, soit des sociétés plus matures qui lèvent des fonds pour amorcer des nouvelles charnières de leur développement. C'est pour ça, petite parenthèse, que j'aime bien dire que Spark est un cabinet qui accompagne les charnières. Voilà. Parle d'une société toute nouvellement créée, qui est à la charnière de la constitution de son périmètre d'associé, que l'on parle d'une société qui lève pour la première fois des fonds, ou la deuxième, ou la troisième, en seed, en série A, en série B, limite en série C, que l'on parle d'une société qui fait de la croissance externe pour se développer en plus de sa croissance organique, que l'on parle d'une société qui restructure son capital pour y associer des hommes clés, ou que l'on parle d'un cédant qui cède sa société avec toute la psychologie de la rupture du lien lorsque c'est un cédant propriétaire. Voilà. Spark accompagne toutes ces opérations et je crois que le point commun fondamental, c'est justement l'accompagnement de la charnière. Okay. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais pour revenir à votre point des occasions, donc c'est vraiment ça. Le LBO et le private equity, j'ai envie de dire plus pur, c'est-à-dire la levée de fonds et ensuite la vie de ces entrepreneurs avec leurs nouveaux associés fonds.
Bien, ok. Donc accompagner, vous êtes avec un entrepreneur et vous l'aidez pour lever des fonds avec un fonds du DC, capital développement. Où vous êtes avec un entrepreneur qui veut faire de la croissance externe, vous l'accompagnez. Exactement. De temps en temps, vous êtes directement côté fonds.
Exactement, j'allais y venir. De temps en temps, le contexte de croisement des fonds est tout simplement celui dans le cadre duquel nous faisons équipe avec des fonds pour investir. Alors principalement en levée, mais parfois aussi en cap dev. Là récemment en cap dev pour les besoins du financement d'un build-up, d'une croissance externe. Donc nous faisons équipe ce coup-ci avec les fonds. Alors des fonds, vous allez dire c'est un peu contradictoire ou schizophrène. Non, parce que ce sont des fonds qui sont des fonds qui ont eux-mêmes des ADN très entrepreneuriaux. Qui partagent nos valeurs et on partage les leurs. Qui sont des fonds qui sont aussi heureux de déléguer la gestion de projet, c'est-à-dire vraiment la conduite de l'opération, et puis une partie de la négociation, voire en amont, en fait, une partie de la détermination du cahier des charges d'investissement. Et ça, pour nous, c'est extrêmement précieux, puisque, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, et comme on se le dira certainement tout à l'heure également, sans cet accompagnement de l'enjeu, En fait, voilà, je crois qu'on tire vraiment pas le meilleur des équipes Spark. Et puis, nous, on va se le dire très franchement, on a moins envie, hein, si c'est que de faire de l'exécution technique. Et moins d'envie, c'est moins de passion, c'est moins de plaisir. Et moins de plaisir, c'est moins de qualité, à mon avis.
Donc, vous y allez.
Tant en interne qu'en externe, donc on n'y va pas.
Hyper clair. En fait, c'est justement, quand on discutait un petit peu avant de faire l'épisode, vous me disiez que le but, c'est, si j'ai bien compris, c'est d'être, tout comme un fonds de private equity va être, dans le cadre d'une croissance externe, une sorte de cellule de corporate développement externalisée pour aider sur la transaction parce que c'est leur cœur de métier. Vous, comme vous êtes dans l'univers de la PME, PME petite ETI, du coup.
Ouais, aussi, exactement. Ouais.
C'est d'être aussi un partenaire externe, mais sur tous les points, justement, stratégiques, juridiques.
Exactement.
Bien ça.
Mais absolument. Et à telle enseigne, comme je vous le disais tout à l'heure, que parfois les clients nous sollicitent pour valider un recrutement, mais même d'une fonction non juridique, ou voilà, nous appellent pour nous dire, tiens, bah, attends, j'ai un sujet, là, je dois mener un board comme ci, comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Comment je gère la psychologie d'un tel? Quelle stratégie humaine j'adopte autour de telle et telle problématique? Ou alors même, pour nous parler d'enjeux stratégiques, j'envisage de faire un partenariat dans telle et telle circonstance, qu'en penses-tu? Peut-on parler strat avant de réfléchir à l'outil juridique? Et donc, dans ce cas-là, on se retrouve dans des sessions de brainstorm qui sont vraiment des sessions de pure partnership, sparring partnership, de nature parfaitement ajuridique dans un premier temps. Hein, on est dans le partage strat, on est dans le brainstorm, on est dans le coaching, parfois un peu, sans du tout se prendre pour des coachs, hein. Mais pas du tout encore dans le droit. Et l'outil juridique ne viendra que servir, le dimensionnement, le périmètre qui aura été le fruit justement de cet échange et de ce brainstorm.
Hyper clair. Et donc là, toute votre valeur ajoutée, c'est d'avoir vu en une vingtaine d'années une quantité monumentale,
astronomique
de start-up, PME, petite ETI, et donc de croiser vos expériences, comme vous le disiez, aussi bien en interne qu'avec les entrepreneurs.
Exactement.
Ça fait quelque chose de vertueux, si je résume bien.
Exactement, vous êtes totalement dedans.
Et donc, tout autant vous êtes c'est très caricatural, mais une cellule juridique externalisée pour les entreprises, en fait, c'est un peu la même chose que si j'ai bien compris, vous m'avez décrit pour les fonds, où au final, qui vous délèguent une partie de la négociation. C'est des fonds de small, donc en général, en tout cas de ce que me disent les gens que je rencontre sur Bienvenue au Capital, des fonds qui vont être, comme ils lèvent des plus petits montants, donc ils sont un peu moins structurés, c'est toute la partie middle, back office, et donc qui doivent sûrement être, ça doit bien les arranger d'avoir une sorte de cellule externalisée, tout comme pour les PME, c'est un petit peu ça aussi ou?
Absolument, et puis il y a peut-être quelque chose qu'il faut qu'on dise là-dessus qui est important et qui est tout à fait commun aux entrepreneurs comme aux fonds quand elles accompagnent, c'est que il faut pas oublier, et c'est pas du tout réducteur de le dire, et c'est pour moi une profonde conviction, que l'avocat doit d'abord et avant tout, alors en dehors de son rôle technique bien sûr, mais avoir un rôle de dépersonnalisation.
Je
m'explique. Il faut déporter le personnel et l'affect. Et on est des fusibles parfaits pour ça. Et il faut nous utiliser comme tels. Et moi, c'est ce que je dis toujours aux clients, que je sois côté entrepreneur ou côté fonds. Utilisez-nous comme le fusible, capable d'aller exprimer peut-être parfois de façon un peu plus verte, un peu plus directe, beaucoup plus ferme, parfois un peu moins constructive, mais à dessein. Quand on est non constructif dans une négociation, il faut en avoir évidemment conscience et il faut que ce soit très circonstancié. Sinon, on n'est pas là pour aider. Or, notre rôle, c'est d'aider à boucler des deals, pas de les empêcher de se faire. Mais ça, c'est très intéressant parce que il faut pas oublier, et je crois qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure, c'est le paradoxe de ces relations, c'est que je suis temporairement en face de quelqu'un qui sera demain mon associé. Et donc, avec qui je serai assis non seulement sur le même banc, mais juste à côté, et en plus, on se tiendra la main.
Mais justement, parlons-en, parce que c'est hyper compliqué.
Hyper schizophrène comme exercice. Et donc, l'avocat sert aussi à pouvoir énoncer un certain nombre de choses qui seraient vraiment détrimentales, comme disent les anglo-saxons, de se dire en direct, parce que il y a des tensions qui laissent des traces et que le lendemain du closing, ça y est, on est associés et on bosse ensemble de façon constructive, toi fond avec tout l'input que tu peux me faire, moi entrepreneur avec toute l'histoire que j'ai déjà dans cette boîte et tous les leviers que tu as pu entre guillemets acheter comme étant des leviers crédibles de développement de mon BP.
Ouais.
Et donc, bah, ce partenariat, il se fait instantanément. Bien sûr, on apprend à se connaître, mais on va pas mettre 6 mois à commencer à bien bosser ensemble. En tout cas, c'est pas l'idée lorsqu'un fonds rentre au capital d'un entrepreneur et réciproquement.
Bien sûr.
Donc, le fait de pouvoir utiliser l'avocat pour justement gérer ces éventuelles zones de désalignement, on va dire, pour le dire de façon neutre et dénuée justement d'affect, bah, je pense que c'est un rôle très important qu'on joue et qu'il faut qu'on le tienne, ce rôle. Si on vient alimenter l'affect et la polémique,
bien sûr.
Alors encore une fois, on peut le faire de façon très circonstanciée parce que ça fait parfois un peu partie du jeu de rôle. Mais il faut que ça reste très maîtrisé, très lucide et que ça reste du jeu de rôle. Sinon, on se met à détruire de la valeur.
Mais justement, parce que ce rôle de fusible, comme vous le décrivez, il paraît assez normal. Et justement, ça évite de casser une relation entre l'entrepreneur et le fonds, ou le fonds et l'entrepreneur dans les deux sens. Donc ça se comprend. Vous êtes dans ce cas-là l'intermédiaire. Mais vous, comment vous faites pour du coup jouer justement ce rôle sans vous non plus détruire la relation que vous pouvez avoir avec l'entrepreneur ou avec le fonds? Est-ce que c'est parce que vous, quand vous discutez, c'est avec leurs propres avocats et donc entre vous, entre les avocats, il y a une sorte de règle qui se dit bon bah on est très dur sur les négos, mais c'est le jeu? Ou est-ce que vous parlez en direct avec du coup soit les entrepreneurs, soit le fonds? Et dans ce cas-là, comment vous faites pour pas briser aussi pour vous, pour Spark?
Ouais, bien sûr. Bah, les deux, en général. C'est-à-dire que les deux se produisent, les deux situations existent. Mais je trouve que de plus en plus, les négociations sont communes et de moins en moins en canal exclusivement avocat. Et je pense que c'est très bien. Parce qu'il faut mêler le business, l'opération, le pratico-pratique à ces négos, parce que sinon elles deviennent vite un peu éthérées et donc beaucoup moins efficaces. Il y a une chose qui me paraît vraiment importante sur ce sujet-là, c'est que la négociation pour moi sur ces plans, elle est faite de deux grandes majeures. D'abord un état d'esprit et ensuite une palette de solutions, de voies médianes, de voies constructives qui proviennent d'abord et avant tout de votre expérience.
Okay.
Et je crois, et bon, évidemment, je vais être 2 secondes un tout petit peu prétentieuse, mais je crois que vraiment la signature Spark, c'est que on est dans un état d'esprit constructif. On veut que les choses se fassent parce que nos clients souhaitent que ça se fasse. C'est qu'on n'est pas là pour prendre la décision à leur place. Hein. Il faut pas confondre le conseil et la partie. Du coup, quand il y a une tension, quand il y a un désalignement, on peut être très très ferme si on montre tout de suite qu'on a beaucoup d'idées de voie médiane et qu'on met sur la table des retours d'expérience en disant voilà, dans d'autres circonstances, lorsqu'on a eu ce type d'opposition, voilà ce qui a pu être mis en œuvre, voilà ce à quoi on peut penser, il y a aussi ça. Et puis ça peut être le panachage de ces 3 éléments, parce que certes ça vient pas directement régler la totalité de votre sujet, mais ça vient sacrément quand même concourir à le masquer sur tel et tel plan, etc. Et ça, je crois que quand on a ce caractère fondamentalement constructif, et on le voit bien d'ailleurs quand on se retrouve tous ensemble après au dîner de closing, on se fait souvent chambrer, passez-moi l'expression, ah bah c'est la faute de mon avocat, ton avocat a dit, mon avocat, etc. Mais n'empêche que quand on a eu cet état d'esprit et cette créativité autour de la recherche de solutions, de la recherche de voies médianes, eh bien, on est d'abord respecté, et ensuite, je pense qu'on est apprécié pour notre capacité justement à faire avancer, tout en tenant compte du fait qu'on est d'un côté de la barre, hein, pour reprendre une vieille expression du palais, et non pas des deux. Bon, hein, ça, c'est sûr que c'est la limite de notre schizophrénie.
Hyper clair, et cette notion de créativité, c'est Mireille Klitting, donc de Rothschild Five Arrows, qui en parlait dans son épisode, justement, et, en disant exactement la même chose, que c'est le panel de négociations, de discussions qu'on a pu voir, qui permet justement d'être créatif dans les solutions. Et donc, si j'ai bien compris, en ayant un état d'esprit constructif, et en fait, c'est de la fermeté en disant non, mais en proposant plein d'autres options pour montrer qu'on a envie d'avancer. Juste là, cette condition-là, elle n'est pas possible. Et après, j'imagine que c'est juste énormément de préparation, donc, pour savoir à quel point vous êtes capable d'avancer sur vos positions, les noms fermes, ça se joue du coup avec la personne que vous conseillez, et ensuite vous déroulez.
Ouais, exactement. Alors ça, faut avoir bien bossé en équipe. Alors évidemment, c'est toujours un tout petit peu plus délicat quand on n'a pas d'historique de négo avec le client. Quand il y a un bon historique de ce que j'aime bien appeler le 1-2, hein, moi je fais vraiment l'analogie pour le coup de la passe-foot. Bon bah là, c'est royal quoi. Il y a vraiment beaucoup de gens avec qui on n'a même pas besoin de se parler. On y va, on n'a même pas préparé, on sait très bien où est notre. Enfin, quand je dis on n'a pas préparé, c'est qu'on sait très bien où est notre limite. On est très clair sur notre cap et notre bottom. Et dans ce range-là, on sait qu'on peut faire des passes et marquer des buts comme chacun le sent en fonction de l'occasion qui se présente et puis des ouvertures qui nous sont données ou pas.
Ok.
Donc, mais c'est vrai que ce que vous dites renvoie à une notion qui est souvent galvaudée, mais sans laquelle on peut pas bosser. Et là, je vous cache pas qu'on est en souffrance quand on n'arrive pas à la bâtir, et on s'en prend à nous aussi, hein, bien sûr. Ça nécessite une remise en cause, mais c'est la notion de confiance, quoi. Parce que c'est vrai que avoir un fonds qui nous dit vas-y, t'as les mains, ou deux fonds même en co-invest pour qui on bosse, nous dire allez, vas-y, t'as les mains libres, on sait que ça va bien se passer, et puis aller une négo en sachant qu'on est complètement backé, qu'on a la confiance complète de nos clients, et avec qui on peut justement se renvoyer des balles en pleine session, mais avec toujours cette capacité à faire avancer le sujet. Bon bah là, c'est comme j'aime bien dire en plaisantant, c'est du caviar quoi. Là,
c'est royal.
Ah, c'est royal. Et puis alors bah là, on est dans le 100% plaisir en plus. Donc c'est vrai que on bosse beaucoup. Moi, je dis toujours, s'il y a pas de plaisir, s'il y a pas d'envie, j'arrête tout. Hein. Franchement, vu le nombre d'heures qu'on bosse par jour, voilà. Et là, vous me voyez avec un immense sourire parce que c'est les moments où vraiment on se fait ultra ultra plaisir.
Et ils arrivent beaucoup ces moments ?
Ouais, ouais. Heureusement.
Ouais.
On a un énorme snobisme chez Spark.
Okay.
C'est que ça fait très longtemps, même quand on était beaucoup plus petits, ça fait très longtemps qu'on se choisit mutuellement avec nos clients.
D'accord.
Donc, comme on dit toujours en fait aux clients quand on les pitch la première fois, en fait, cas échéant, vous nous choisirez et on vous choisira aussi. Il faut qu'on soit vraiment deux à avoir envie de faire équipe ensemble. Quand on le sent pas, on le fait pas, et on l'explique le plus constructivement possible en disant voilà, on sent pas qu'il voilà, y a tel et tel pan dont vous avez moins besoin ou pour lequel on vous sent moins à l'aise ou moins d'envie d'y aller, etc. Et nous, on sait que si vous nous laissez pas cette place, on va pas pouvoir s'exprimer avec la valeur qu'on pense pouvoir vous amener, et donc on préfère décliner. Et ça, on l'a toujours fait. Même quand on faisait 6 fois moins de chiffre d'affaires.
Génial.
Et là, c'est top parce qu'alors évidemment, il y a toujours une ou deux déconvenues par an. Et je me fais toujours un peu chambrer par l'équipe qui a toujours tendance à me dire « Oui, mais toi, t'aimes tout le monde. » Non, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, loin de là. Mais c'est vrai que du coup, ça arrive très souvent parce qu'on s'est choisi mutuellement.
C'est aussi ça, c'est la capacité de juste sélectionner ses clients.
Ouais.
Un peu la loi de Pareto, mais 1% des mauvais clients ou faire 80%
exactement.
Des problèmes. Donc, vaut mieux les éviter.
Exactement.
Vous me parlez de négociation. C'est alors du point de vue des fonds. En général, c'est quoi les points clés d'une négociation pour un fonds? Alors c'est super général hein, comme question, mais quels sont les éléments sur lesquels il y a le plus de négociations? Parce que j'ai un peu l'impression de ce qu'on me dit que le prix au final tout le monde s'aligne plus ou moins. Alors, peut-être que ça fait partie des éléments de négo, mais sinon c'est quels sont-ils?
Ah bah j'en listerai peut-être 4.
Ok.
Le premier, bon, c'est l'avalo, hein, bien évidemment. L'avalo qui n'est pas évidemment nativement notre champ d'intervention, mais qui néanmoins mérite d'être très attentivement regardé. Alors là, c'est plutôt surtout côté entrepreneur quand on fait la pédagogie, parce qu'on sait qu'une valo s'entend différemment selon la base sur laquelle elle est posée. Donc l'entrepreneur doit être parfaitement au fait du pré-post-monnaie, bien sûr, et surtout du fully ou non-fully diluted. Et ça change évidemment en fonction de la table de capitalisation du client au jour où le fonds entre. Ça peut changer de façon très significative la valorisation telle qu'elle est proposée.
Okay.
Donc il y a quand même toujours ces points de clarification, de pédagogie et d'alignement pour qu'on soit bien clair sur la partie valorisation. Vous avez raison de dire que le marché est peut-être de plus en plus uniforme sur ce point-là. notamment sur les très belles cibles, bien sûr, parce que quand on gère de l'abondance, on gère de la surenchère. Et quand on gère de la surenchère, c'est qu'on est quand même dans des nuages de points qui sont à peu près cohérents. Donc, vous avez raison de dire qu'il y a peut-être une forme d'alignement, mais c'est pas systématique dans tous les dossiers. Et j'ai envie de dire peut-être moins en small que ça ne peut l'être en mid ou en large. Donc ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui est probablement un des plus majeurs et qui fait clairement partie de l'économie globale, à mon avis, de ces deals-là, c'est le point de la gouvernance. Parce que c'est ce qui va... Alors, je vais vous dire, c'est même pas tant le livrable juridique qui va en sortir. Ça, bon, ok, ça a le mérite de formaliser et de mettre un cadre, c'est évidemment important. Mais ce qui est très important pour moi sur ce thème de la gouvernance en égo, c'est tout ce qui sort de l'échange. C'est tout ce que laisse transparaître l'entrepreneur, c'est tout ce que laisse transparaître le fonds. Et finalement, j'ai envie de dire, pour moi, c'est l'item sur lequel se fait le plus le contrôle de cohérence. Est-ce que tu vas faire ce que tu dis ? Parce que tu dis ce que tu vas faire, mais est-ce que tu vas faire ce que tu dis ? Et pour moi, voilà, c'est le thème qui manifeste le plus, a priori, et bien sûr, après, on lit pas dans le marc de café, mais le type de cohérence qu'on peut trouver chez un interlocuteur. Et c'est vrai côté fonds quand on regarde des entrepreneurs, et c'est vrai côté entrepreneur quand on regarde des fonds.
Et ça, c'est grâce aux signaux faibles, si je me trompe pas. Absolument. C'est vraiment... comprendre, pas écouter, mais comprendre, quoi. Ouais,
exactement. Ouais. Alors, écouter, toujours, décoder, puis en s'aidant de ses expériences passées, conjecturer sur une forme de compréhension, mais qui est quand même la conséquence d'un décodage. Donc, évidemment, y a un aléa autour de ça. Et là, plus que jamais, alors plus que jamais, je sais pas, mais en tout cas, là encore, et c'est un mot-clé que j'ai pas encore prononcé, mais qui me tient énormément à cœur, moi, je considère que notre rôle numéro un, c'est d'être un outil de gestion de risque. Nous, un avocat, on aide un tiers, notre client, qu'il soit entrepreneur ou fonds, pour parler de notre périmètre là, à gérer des risques. Et c'est vrai que tous ces signaux faibles et tous ces décodages qu'on fait sont pour moi des éléments importants de gestion de risque. Et c'est là que justement on peut exprimer toute notre valeur ajoutée de retour d'expérience et de, j'ai presque envie de dire, un peu de chaînage de causalité. Oui. J'ai vu ça, ça a occasionné ça sur tant d'occurrences et dans tel et tel champ d'hypothèse.
J'ai croisé tel fonds sur tel deal, exactement. Je sais qu'il a fait ça quand.
Exactement, ouais. Exactement. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est précieux. Et vous voyez bien, du coup, parce que c'est une façon d'illustrer, que si vous mettez, là on est peut-être au point, j'en sais rien, 2 sur 10 de l'opération, si vous me mettez au point 8 qui est le point d'exécution technique, bah je vais rater complètement ça et mon exécution technique, elle va du coup plaquer des choses qui n'auront pas du tout pris en compte l'intégralité de la situation. Et là, pour moi, il y a une déperdition de valeur qui est colossale.
Ouais, ça peut être à côté parce que vous n'avez que certaines infos. Exactement. Si on vous envoie juste les échanges par mail, par exemple, c'est compliqué, quoi.
Exactement. Et donc ça, ce point de gouvernance, pour moi, il est très important.
Ok. Le troisième point, la gouvernance.
Exactement. Valo gouvernance. Le troisième point des échanges, c'est le point que vous avez déjà évoqué avec mon confrère, qui est le point du pacte, au sens où lui va régenter tout ce qui va toucher, alors, au maintien de la cartographie du capital, à la gestion des sorties, à la gestion de la liquidité, ce qui est encore un peu différent de la gestion des sorties, aux problématiques de loyauté, de non-concurrence, d'anti-blanchiment, etc., etc., des choses qui, en fonction aussi de l'interlocuteur et du caractère institutionnel du fonds, ou de sa nationalité, ou, de toute façon, tout court, hein, on a quand même tous le souci de respecter un minimum d'éthique au sens large, sont des éléments très structurants de l'opération. Donc ça, je le mettrais clairement, en tout cas vu de mon prisme, comme un troisième bloc de négociation qui est très prégnant et qui lui aussi fait partie de l'économie globale, parce que si je suis un fonds d'investissement, que j'investis sur un entrepreneur qui me paraît être un très bon cheval, si je puis dire, ou plutôt un très bon jockey, eh bien, il est évident que si j'apprends au détour de la clause, par exemple, d'exclusivité, de dédication 100% que il a une autre activité à temps partiel qui occupe 50% de son temps. Évidemment, dans ma cartographie de risque, ça peut avoir un impact
colossal.
En tout cas assez significatif. Donc on voit bien comment le pacte, là encore, non pas pour le livrable juridique parfois un peu mécanique qu'il est, mais pour tout ce qu'il recèle d'indices et d'éléments constitutifs de l'économie globale, est un élément hyper hyper important de la négociation. Et puis il y a un quatrième point que je citerai après, donc la valo, la gouvernance et le pacte. qui est rattachable hein, aux items précédents et qui est peut-être d'un tout petit peu moindre importance, mais qui me paraît super structurant, surtout en levée, c'est le point de tout ce qui va concerner ce qu'on appelle les Employee Stock Option Plans, les ESOP, tout ce qui va concerner en fait l'entrée d'hommes clés au capital. En dehors des managers avec qui je parle, et particulièrement lorsque je suis côté fonds, je sais que la consolidation de la valeur de ma PME ou de ma start-up à devenir PME repose directement sur les hommes et sur un cercle 1 puis un cercle 2 et bien structuré de façon toujours plus conséquente. Et c'est vrai que cette association des hommes clés, la quantité de capital qu'ils peuvent représenter, les outils qu'on peut utiliser pour les associer, etc., et bien ce sont pour moi tant côté entrepreneur, même si parfois ils le réalisent moins, que côté fonds, des outils qui participent beaucoup à l'économie globale d'un deal et qui, par conséquent, sont des outils sur lesquels, en général, on a quand même pas mal d'échanges.
Et justement, ça, donc, le retour d'expérience que vous faites au moment où vous conseillez vos clients, je vais vous le demander là, pour ce dernier point, l'entrée d'hommes clés au capital. Est-ce que, comme c'est un petit peu de plus en plus le cas, j'ai l'impression, dans le marché, vous considérez que c'est important? Et si vous avez peut-être des exemples de moments où ça a été transformatif ou clé, ça peut être intéressant.
Bien sûr. Alors, oui, alors c'est très important parce que d'abord, à la sortie, ça va avoir un lien direct sur la valorisation de la boîte. Hein. En PME, notre enjeu, et en start-up aussi, bien sûr, c'est toujours de désincarner, de sortir, en fait, de la logique du one-man show, puisque la logique de one-man show, hein, toujours avec cet esprit cartographie de risque, elle est dans la zone rouge, évidemment, du risque. Donc ça, rien que pour ça, c'est un élément hyper important. Et puis, on sait, vous comme moi, tout secteur confondu, que quand, par exemple, on aborde une cible dans laquelle il y a de la tech, ne pas aller associer les hommes clés qui régissent la R&D tech, c'est une erreur qui, tout simplement, est quasiment une erreur de marque employeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une telle bagarre pour capter des talents CTO ou dev ou autre.
Que c'est juste obligé, en fait.
Bah exactement.
C'est le core business.
Exactement. Ouais. Ça fait partie des pratiques de marché. Si vous le faites pas, soit vous garderez pas, soit vous recrutez pas. Mais dans tous les cas, il y a un problème avec la cohérence entre, en fait, votre structure capitalistique et le BP tel que vous l'avez exposé. Parce qu'en fait, pour faire ce BP, ça suppose d'avoir mené le produit au stade de développement 3, 4, 5, 6, enfin, quelles que soient les appellations. Et si vous avez pas les hommes pour le faire, et ben vous le ferez pas. Donc de ce point de vue-là, même lorsqu'on est dans des activités et des économies qu'on dit scalables, il faut pas oublier qu'avant d'aller vers un modèle scalable, il faut une solution développée par des hommes qui eux sont non scalables. Il faut les recruter et il faut les garder. Bon, donc ça c'est un point qui me paraît hyper hyper important. Et puis, ce que j'aime aussi dans cet échange, exactement comme ce qu'on se disait sur le pacte d'actionnaires, c'est qu'il est hyper symptomatique de l'état d'esprit des hommes clés en question.
Ça.
Ce sera pas la première fois qu'à l'entrée de l'occasion d'un fonds, on s'aperçoit qu'un homme clé émet des revendications ou manifeste un état d'esprit qui nous envoie, alors soit des signaux très forts et tant mieux, et comme ça le vert clair devient vert foncé et on est tous très contents, soit au contraire des signaux faibles, comme vous les évoquiez tout à l'heure, qui manifestent qu'en fait cette personne a accumulé un certain nombre de frustrations qu'elle a pas forcément exprimées ou qui n'ont pas été écoutées ou perçues par le dirigeant, et qu'il est donc temps de rétablir une situation pour pouvoir pérenniser en fait un modèle, ou en tout cas le projeter avec le plus de justesse possible. Et ça, je peux vous dire que quand on est côté fonds, c'est super super important, parce que on a projeté des choses, on a foi en un entrepreneur qui nous dit pouvoir se reposer sur une équipe, et si ces échanges sont l'occasion de manifester un peu de friabilité dans l'équipe, il vaut mieux le savoir tout de suite.
Clairement, hyper intéressant, hyper clair. Là, on a vu les quatre points clés de la négociation. Tout à l'heure, vous me disiez aussi que du point de vue cette fois des entrepreneurs, ça pouvait être rassurant, très bon signe pour eux d'avoir un fonds qui leur parle de long terme et typiquement qui va donc avoir la structure de fonds nécessaire pour ça. Et du coup, je pense que c'est intéressant d'un petit peu inverser la question et de voir. Moi, je demande souvent qu'est-ce qui est intéressant pour les fonds de PE, pour les investisseurs, qu'est-ce qui les intéresse dans un potentiel investissement. De l'autre côté, qu'est-ce qui intéresse les entrepreneurs, et qu'est-ce qu'ils vont regarder chez un fonds qui va entrer dans leur capital. Il y avait le côté long terme, il y a sûrement d'autres points, si vous pouvez un petit peu...
Bien sûr. Alors, côté fonds, Moi, ce que j'aime bien dire à mes entrepreneurs quand j'essaie de leur faire un petit peu la pédagogie, parce que comme je leur dis toujours, on ne peut pas aller à la moindre discussion et encore moins à la moindre négociation sans s'être mis confortablement et suffisamment longuement dans les chaussons du voisin ou de la personne qu'on a en face. Donc avant d'aller discuter avec un fonds, on commence déjà par brainstormer sur le comment il pense, où sont ses enjeux, comment fonctionne cette bête, entre guillemets, plus ou moins noir dans la perception d'un certain nombre d'entrepreneurs. Et ils ne le sont pas, et moi je suis la première à sortir plein de petits papiers assez basiques, mais pour bien rappeler que voilà, un fonds c'est un associé, que le concept de smart money c'est pas un branding anglo-saxon théorique, c'est vraiment quelque chose qui doit se vivre, etc. Donc je suis très partisane de ça, mais force est de reconnaître que chez certains entrepreneurs, ça reste une méfiance, une crispation, on va dire, une crispation en lien avec une perte d'agilité. Donc il y a des craintes, il y a des peurs. Et ce que je leur dis très souvent, c'est que, et de façon un peu caricaturale et polémique, c'est que je leur dis, mais vous savez, finalement, la boîte n'est qu'un prétexte, parce que en gestion de risque, le fonds n'investit que sur vous, quasiment. Alors, évidemment, je pousse le bouchon un tout petit peu loin, mais c'est pour leur montrer que, à mon sens, évidemment, on va se soucier de savoir si le cheval sait sauter des obstacles, mais la personne qui sait vraiment faire sauter des obstacles au cheval, c'est le jockey. Et donc, on est quand même vraiment en train de parier prioritairement sur un jockey. Donc ça, je pense que c'est hyper, hyper important. Et d'ailleurs, c'est assez beau à voir parce que, parfois, dans les négos qu'on a sur certaines entrées de fonds, on voit bien que les fonds se sont tellement convaincus de la qualité du jockey que parfois eux-mêmes, si aguerris soient-ils, ils se refusent à voir certains signaux faibles en lien pur avec le business, par exemple le corpus contractuel des opérations. Eh ben, ils ont plus trop envie de les regarder parce qu'ils se sont tellement convaincus de la qualité du manager, et pour des bonnes raisons, que du coup, ça vient presque occulter parfois certains signaux faibles business qu'ils peuvent croiser au cours des audits, par exemple, avant d'aller finaliser l'opération d'entrée.
Okay.
Donc moi, pour moi, c'est ma perception, hein, elle est forcément le produit de ma pratique est forcément subjective, mais je pense que c'est un point très très fort. Côté entrepreneur, je crois que ça y est, les entrepreneurs, quel que soit leur stade d'avancement, ont compris qu'ils pouvaient pas se contenter de chercher de l'argent. Ça fait pas de sens. Le dirigeant mûr, ce qui signifie pas qu'il ait même passé la trentaine, hein, mais en tout cas celui qui a conscientisé sa solitude et l'isolement dans lequel il se trouve, doit impérativement valoriser l'arrivée d'un tiers qui va m'apporter du soutien. Alors après, ça dépend de l'ADN du fonds, de ce que je suis venu chercher. Ça peut être des portes ouvertes commerciales, ça peut être de l'aide au recrutement, ça peut être même le recrutement d'un manager, parce que je sais que je ne dois pas rester président de cette boîte et que le fonds va nommer un DG et que moi, je vais prendre par exemple un rôle de R&D parce que j'ai monté cette boîte, je suis chercheur au CNRS, mais franchement, manager des gens et gérer une boîte, c'est pas mon truc. Ça peut être du support, justement, de contrôle de gestion, d'analyse financière, voilà, toutes ces fonctions que j'ai du mal à staffer en start-up, en PME. Hein? Bon, donc, je crois que ça y est, les entrepreneurs commencent à comprendre et grâce à l'évolution du paysage des fonds, qui s'est enrichi colossalement ces 10 dernières années, ce qui le rend plus complexe à lire, mais ce qui le rend beaucoup plus riche pour les entrepreneurs, eh bien, ils commencent à comprendre qu'un fonds, c'est pas de l'argent. Bon, un fonds, c'est un associé qui va vous amener tout un tas de plus. Et dans ces plus, il y a encore une fois la réflexion stratégique, le meilleur pilotage financier et dans une certaine mesure opérationnel. Par exemple, c'est des gens qui ont déjà vu d'autres entrepreneurs implémenter des outils, des CRM, des ERP, etc. Donc, ça peut même aller jusqu'à m'aider en partie dans le domptage, si je puis dire, de ce type de chantier qui font peur, qui occasionnent des frottements, etc. Donc, voilà, moi, je pense que et je vois bien que les entrepreneurs valorise de plus en plus cette capacité des fonds à inputer très très qualitativement la conduite du projet au sens large.
Donc à apporter beaucoup plus que de l'argent.
Mais bien sûr.
Et ouais. C'est marrant parce que c'est quand même super aligné avec ce que me disent les investisseurs. J'ai fait mon premier épisode qui est pas encore sorti avec un entrepreneur qui m'a dit exactement la même chose, que ce qu'il cherchait chez un fonds, c'était de l'argent, mais aussi et surtout de l'accompagnement, du retour d'expérience. Donc je crois que, comme vous le disiez, tout le monde avance un petit peu dans le même sens, donc c'est plutôt une bonne chose.
C'est clair. Ce que l'entrepreneur doit accepter, qui est pas forcément très simple en fonction de son caractère, de sa personnalité, de sa posture, c'est le challenge. C'est-à-dire que quand j'accueille un nouvel associé, je vais m'exposer à de la remise en cause. Mmh. Alors, le fond m'aura déjà largement challengé sur mon BP, puisque ça fait partie du roadshow. Mmh. Mais ensuite, une fois qu'il sera là, il va me challenger sur mes décisions stratégiques. Et ça, c'est pas facile quand même. C'est pas facile de s'ouvrir sur ces sujets-là. Parce qu'on se plaint de notre solitude, et ça, je le vis moi en tant que fondatrice et dirigeante de ce cabinet aussi. On se plaint de pas être assez sparring partneré. Mmh. Et puis le jour où on a quelqu'un qui nous sparring partner, voilà, ça peut occasionner quelques
frustrations aussi. Moi, je suis dedans depuis 10 ans, je connais
exactement
par cœur le business.
Tu peux pas comprendre les spécificités de mon métier, etc., etc.
C'est ça,
en fait, tous les métiers sont spécifiques et non spécifiques à la fois. Il y a juste que une paire de lunettes extérieures est en capacité de voir des choses qu'on ne voit pas nous à l'intérieur pour nos propres structures. Ouais. Et c'est d'ailleurs toute la magie des brainstorms qu'on fait avec les clients. Moi, ce que je leur dis souvent, ils me disent « Ah bah non, mais t'es trop humble et tout. » Je leur dis « Tu sais, la seule différence entre toi et moi, c'est que j'ai fait émerger ce point tout simplement parce que mes lunettes sont extérieures.
Oui.
Si j'étais à l'intérieur comme toi, je verrais pas les choses de la même façon. Et tu ferais la même chose pour mon business.
Bah, » c'est tout le rôle du conseil et de la personne extérieure,
exactement,
c'est ça.
Exactement.
Hyper clair. Je pense qu'on a fait enfin moi en tout cas, j'ai posé les questions que je voulais vous poser. On a fait un tour assez large et j'ai des questions de plus de conclusion.
Okay.
Si vous voulez qu'on y aille.
Avec plaisir, j'ajouterai juste une petite chose, une petite anecdote qui illustre bien, je crois, notre positionnement aussi en lien avec ce qu'on vient de se dire sur la paire de lunettes extérieures.
Mmh.
Tout ça est tellement vrai que lorsque le premier confinement est arrivé en mars 2020, j'ai passé mes 2 premières semaines à appeler à peu près 150 clients pour prendre de leurs nouvelles, pour savoir comment ils vivaient les choses. Et puis également, je dois dire égoïstement, pour aller m'inspirer. Parce que les opérations se sont gelées dans un premier temps. Et il y a eu de la peur, évidemment, pour le dirigeant que je suis également. Et je me suis retrouvée dans des situations extraordinaires où justement, après avoir échangé avec quelques-uns de mes clients, ils m'ont dit « Bon, ok, merci, on a fait mon diag, et maintenant, si on faisait le tien, est-ce que tu veux que je t'aide à brainstormer sur ton passage de crise à toi ?» Et on s'est retrouvés, en fait, avec 3-4 clients, alors donc une minorité hein, sur les plus de 100 dont je vous parle, mais on s'est retrouvés à faire des regards croisés sur la situation de Spark. Et c'est un moment qui m'a vachement touchée. D'abord parce que je pense que ça manifeste l'extrême confiance que nous font nos clients et qu'on leur fait.
Clairement.
Parce qu'ouvrir le moteur, on va dire, de son véhicule, c'est pas forcément évident.
Mmh.
Dans une relation prestataire-client. Et puis ensuite, ça montre la générosité, je pense, réciproque, et je pèse mon mot. Et ce temps que, alors qu'ils étaient dans le tumulte, ils ont pris aussi pour nous.
C'est dingue.
Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a vachement touchée et que du coup, en vous parlant tout à l'heure du brainstorm, je me suis dit qu'il était assez symptomatique de mettre au micro.
C'est hyper intéressant et puis c'est assez fort. Vous avez commencé en parlant de générosité. C'est la première chose qui vous a touché quand vous avez rencontré les dirigeants il y a une vingtaine d'années. Et puis,
ouais, tout à fait. Ouais.
C'est exactement ça.
Ouais. Non. C'est...
Si vous pouviez vous donner un conseil au moment où vous sortez de l'école, qu'est-ce que vous vous diriez?
Alors, un conseil à qui?
À vous.
Ah, à moi, ouais. Sortant de l'école.
Exact, d'avocat.
Sortant de l'école d'avocat. C'est une bonne question, ça. c'est un conseil qui est très biaisé, mais. N'oublie pas d'avoir envie, quoi. N'oublie pas d'avoir envie. Moi, je trouve qu'on fait rien sans envie. Et j'ai envie de dire, plus le temps passe, pire c'est.
C'est-à-dire?
Ben, je trouve que plus le temps passe et plus il m'est intolérable de faire des choses sans passion et sans envie, quoi. Et je pense que j'aurais pas eu la même détermination, la même persévérance, la même résilience, même si ce terme est devenu totalement galvaudé, si j'étais pas à la base partie avec ce que je vous disais au début de notre entretien, c'est-à-dire de l'envie, quoi. Je trouvais ça top. Donc, quand on commence un job, là, qu'on débarque, il y a un baromètre qu'on doit assez vite pouvoir mesurer, qui est le baromètre de notre plaisir, qui lui-même va déclencher ou pas plus d'envie. Et ça, je pense quand même qu'il faut qu'on s'écoute un peu. Alors évidemment, sans tourner au tir au flanc et puis à tous les défauts dont on peut d'ailleurs parfois taxer un peu, je trouve, à pas forcément juste titre les jeunes générations, mais oh, bah ça me plaît pas, je m'en vais, avec le côté un peu je prends, je jette, ou le côté gamer, là, hop, je suis pas passé au niveau 2, je change de jeu. Mais il faut quand même qu'il y ait de ça, parce que sans ça, honnêtement, ce milieu, puisqu'on est là pour parler du milieu du private equity, est quand même pas un milieu facile. C'est un milieu fait, je trouve, de beaucoup de mensonges et de beaucoup d'ego. Okay. Et donc, voilà, si on se fait pas plaisir, je trouve que ça, c'est vite dur, en fait. Alors, c'est peut-être un peu féminin aussi de parler comme ça, j'en sais rien, mais en tout cas, je le revendique maintenant.
Je pense pas. c'est quoi la meilleure chose que ce métier vous ait apporté?
Oh, trop de choses. J'arriverai jamais à en trier une. Je crois que si je devais faire une réponse très auto-centrée, ça serait d'avoir et de, au quotidien encore chaque jour, épanouir ma curiosité. C'est never ending, quoi.
Et c'est aussi pour ça, sûrement, que vous venez d'en parler, vous vous éclatez dans ce que vous faites.
Ouais, c'est vraiment... Et c'est ce que je dis aux jeunes, je leur dis, de toute façon, il n'est pas pensable de faire ce métier sans se questionner. Et se questionner suppose d'être curieux. Donc, pour moi, c'est la qualité numéro un d'un candidat. Après, le reste, le CV, tout s'acquiert. Par contre, le savoir-être et cet état d'esprit à en bouffer de curiosité sur tout sujet, ça, je trouve que c'est plus difficile à acquérir. Ça se nourrit, mais c'est plus difficile à acquérir. Et donc, je pense que ça m'a apporté ça. Et si j'étais moins auto-centrée, je crois que la plus belle chose, c'est de voir mon équipe grandir et de voir combien ils me font grandir à leur côté. Ça, c'est top.
L'échange, encore une fois, même en interne.
Ouais, exactement. Et la générosité, parce qu'on se donne beaucoup les uns les autres.
Ça, on en parlait plus, je crois, en off avant l'épisode. Il y a une notion qui est donc une notion aussi beaucoup générationnelle. Mais comment est-ce qu'on fait pour concilier, si vous avez des tips, des astuces, des exemples peut-être concrets, sans vouloir rentrer dans l'intime, mais comment est-ce qu'on fait pour concilier la vie privée et la vie de travail?
Alors, je pense que la première chose qui est pas forcément facile quand on débarque dans le milieu du travail, ou de ce boulot en tout cas, c'est de bien réaliser que on a des responsabilités. Tout de suite, immédiatement. Quand on est une petite structure qui vous offre la possibilité d'avoir quasi immédiatement accès à des clients, quand je dis quasi immédiatement, c'est 2 semaines, 3 semaines. J'ai pas le souvenir que quelqu'un ait été embauché chez nous junior et attendu plus de 2 semaines avant d'écrire un email ou de parler à un client. Okay. Donc, ça donne des responsabilités. Et donc, comme moi, c'est un peu lâche, hein, mais je dis à l'équipe, les amis, le stress, il vient pas de moi, il vient des clients avec qui vous êtes en interaction directe. J'ai même pas besoin de mettre de pression. La pression, le client vous la met ou vous vous la mettez seul pour le satisfaire, parce qu'on est là pour partager un grand sens du service client. Donc, voilà, pour moi, c'est prenons conscience de nos responsabilités et essayons de demander à notre entourage de nous aider à mesurer en fait, ce qu'elle représente en termes de périmètre. Et ce périmètre, il évolue pour le coup, bien sûr, parce que mon périmètre de responsabilité va évoluer avec le temps. Mais depuis le J0, je suis responsable. Si je pars avec cet état d'esprit, je pense que, aidé de ma curiosité, je vais manifester un sens de l'engagement, je vais nourrir mon envie, et donc je vais m'inscrire dans un cercle vertueux où je peux grandir avec plaisir. Une fois que j'ai serré mon périmètre de responsabilité, je sais que quand j'ai fait ce que j'avais à faire pour aujourd'hui et que j'ai pas laissé 6000 urgences, je peux partir. Et j'ai pas besoin de savoir s'il est 20h, 22h, etc. En fonction de la vitesse à laquelle je suis allée, de la priorisation que j'ai faite aujourd'hui, etc. Eh ben, c'est moi qui vais décider quand je peux partir. Ou quand je dis quand je peux partir, j'ai pu bosser de chez moi, hein, c'est pas le sujet, mais... Et donc, pour moi, cet équilibre vie pro, vie perso, il se fait bien à partir du moment où j'ai pris conscience de mes responsabilités, je me suis fait aider pour définir leur périmètre, et aussi à partir du moment où je suis capable de dire, bon, attends, là, j'ai mal géré hier, qu'est-ce que j'en tire comme learning? Comment je suis toujours en progrès par rapport à la gestion de mes priorisations et de mes responsabilités? Et comment, du coup, je m'aide moi-même à toujours mieux équilibrer entre le pro et le perso? Donc, je pense que, voilà, c'est un mélange de ce sens aigu du rôle que je joue dans l'équipe et vis-à-vis de mon client, bien sûr, et de cette capacité corrélative que je dois pouvoir avoir à dire, voilà, stop, j'ai besoin de débrancher la prise parce que aujourd'hui j'ai accompli ça, ça, ça et ça. Le reste peut attendre demain sans que ça porte préjudice ni à mon client, ni à l'image de l'équipe, ni à mon image, donc.
Hyper clair. Donc, une fois qu'on a appris à se responsabiliser, c'est apprendre à s'organiser.
Et, exactement.
Ça, c'est aussi avec l'expérience. Et au début, forcément, on est plus long pour produire. Et au fur et à mesure, ça s'apprend et ça se gère, du coup.
Mais il faut savoir dire stop aussi. Et parfois dire, je débranche la prise, je m'en vais. J'ai besoin de m'aérer le cerveau. Et demain est un autre jour. Parce que sinon, on n'a jamais fini. Hein,
et là, faire l'effort de plus y penser, d'être totalement dans l'instant quand on est ailleurs.
Exactement. Hein. Il faut savoir se lâcher. Mais là, après, c'est très perso. Hein, ça dépend des personnalités, des... Voilà.
Je crois pas trahir d'infos parce que c'est revenu beaucoup. J'ai beaucoup vu le mot de karaoké dans les...
Oui, c'est vrai, exactement. Un bon karaoké, une bonne coupe de champagne. Enfin, il y a mille façons de lâcher un peu la pression, quoi. Et on le fait en interne, hein. Ça arrive aussi que parfois il y ait des jours pourris, hein, on va se le dire, hein, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est que, parfois je dis, allez, stop. Pause, stop, on va ouvrir le frigo. On devrait pas trop le dire, mais il y a toujours des bouteilles de champagne au frais dans ce frigo. Et stop, c'est tout, stop, voilà, ouais, c'est tout. On va rester poli, mais voilà, on prend un verre et puis on verra après. Bon. Important, ça.
Vous avez un petit peu répondu, vous avez dit la curiosité, mais je vous pose quand même la question, si vous voulez ajouter quelque chose, ce que vous cherchez chez un jeune que vous recrutez, ou chez un jeune ou une jeune que vous recrutez.
Ouais, curiosité et savoir-être. Alors, je pense que chez nous, le critère numéro un du savoir-être, c'est... à nouveau, le regard et l'écoute attentif.
Okay.
Pourquoi ? Parce que avoir des responsabilités signifie pas marcher sur l'autre. Et je pense que le savoir-être numéro un dans une équipe comme la nôtre, c'est d'arriver, de comprendre que si on s'est choisi mutuellement, il y a une vraie place pour vous. C'est pas un strapontin, c'est pas un banc de touche, c'est une vraie place. Par contre, quand je m'assois, je fais attention à l'endroit où sont assis les autres, à pas m'asseoir sur leur coussin ou à pas crayonner leur feuille ou voilà, ça peut paraître très basique et un peu maternel de le dire comme ça, mais avoir cette curiosité justement de regarder ce qui se trame, qui avance avec quelle personnalité, sur quel rythme, voilà, cartographier. Quand on arrive, on diagnostique, on écoute. Moi, je dis toujours aux clients, si vous m'amenez à une première réunion, par exemple, de négo avec un cédant, qu'on est repreneur, je me tais. La seule chose que je vais faire en fin de rendez-vous, c'est que je vais poser des questions. Mais à aucun moment, je vais affirmer quoi que ce soit. C'est pas le moment. Dans un premier temps, j'écoute, je cartographie, je diagnostique, je pose des questions de clarification pour voir si mon diagnostic premier, qui n'est qu'un diagnostic premier, fait du sens. Eh ben, je pense qu'un jeune talent doit faire exactement la même chose. C'est qu'une des manifestations de la curiosité, finalement. Hein. Donc, c'est une déclinaison. Mais pour moi, c'était, je pense, important de verbaliser ce point
cartographier.
De cartographie de la galaxie, quoi.
Ouais, de prendre tous les signaux aussi, encore une fois.
Exactement. L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment...
Une qualité.
C'est majeur.
Est-ce que, en plus, vous de base, sûrement encore maintenant, vous aimez beaucoup la littérature, du coup ?
Oui. Donc, alors, peu de temps de m'y consacrer, mais
est-ce que vous avez un livre, business ou pas, quel qu'il soit, à nous conseiller ?
Ah bah tiens, ça c'est une bonne question. Récemment, c'est pas très original, mais j'ai lu un bouquin qui m'a beaucoup plu, qui est hyper facile à lire. C'est le bouquin de Ruffin qui raconte en fait j'ai oublié le titre.
Son reportage.
Non, c'est pas le dernier sorti, c'est un qui est un peu ancien, qui raconte son chemin de Saint-Jacques.
Ok.
Il a fait le chemin. Alors moi, je suis une grande fan de rando et de montagne. Et alors là, ça n'a rien à voir parce qu'il randonne pas forcément en montagne, mais en tout cas, il fait le chemin de Saint-Jacques et j'ai bien aimé en fait cette façon qu'il a de décrire ce retour à la simplicité. Et finalement un peu il fait plein de il y a plein de moments où il se met extérieurement à lui-même, si je puis dire, et il s'auto-commente. Okay. Il s'auto-introspecte, mais comme s'il était étranger à sa propre personne. Et ça, je pense que c'est une lucidité aussi, une remise en cause qui sont indispensables dans nos vies pro et dans nos vies perso aussi, bien sûr. Et ça, c'est très perso de le dire. Et j'ai adoré cette façon qu'il avait de se trouver lui-même parfois incongru dans sa simplicité. Et je pense que c'est vachement important parce qu'on évolue dans des sphères qui sont ce qu'elles sont quand même, hein, qui sont pas forcément les plus simples. Justement. Et cette capacité aussi à savoir toujours d'où on vient et où on va, c'est pas complètement inutile.
Garder les pieds sur terre.
Ce bouquin m'avait bien distrait pour ça. Il se lit super facilement. Il est assez court.
Et ben, je l'ai trouvé pendant qu'on parlait sur Internet. C'est donc Jean-Christophe Ruffin, Immortelle randonnée, Compostelle malgré moi.
Exactement. Exactement.
Ok. Parfait. Et est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée ou quelque chose que vous voudriez ajouter?
Ah, écoutez, là, je crois que je me suis livrée de la façon la plus sincère. Non, je crois. Merci beaucoup pour ce chemin ensemble. C'était très naturel et très agréable de pouvoir vous conter un peu la vie de Spark.
Ben, c'est moi qui vous remercie. Vous avez bien résumé l'échange, donc merci à vous et bonne journée.
Merci beaucoup.
Bravo d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée, pour le partager à tous vos amis, tous vos collègues qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous embrasse, passez une bonne semaine et gardez la forme.